Je présente notre intervenant suivant, M. Cédric Cotter. M. Cotter est actuellement chercheur au CICR. Il a récemment défendu une thèse de doctorat à l'Université de Genève intitulée « S'aider pour survivre, action humanitaire et neutralité pendant la Première Guerre mondiale ». Cette thèse sera publiée en automne 2017 aux éditions Georg. Alors le titre de la présentation de M. Cotter est un petit peu provocateur et je me réjouis beaucoup de l'écouter. Il cite d'abord « Notre grande force consiste dans notre indépendance absolue de tout pouvoir politique, les liens troubles entre le CICR et la Confédération ». Vous avez la parole.
Alors merci pour cette invite. Commencer par le titre de ma communication, qui est en fait tiré d'une lettre du CICR du 4 décembre 1918 et adressée au Conseil fédéral, au département politique fédéral. Si cette citation était vraie, j'aurais fini de parler, on ferait passer à l'intervenant suivant. Mais comme vous en doutez, c'est un peu plus compliqué que ça. Et je dois reconnaître que cette citation, elle est un peu tronquée dans la mesure où j'ai pris que un bout de la phrase. Et si je vous redonne la phrase complète, ça va tout de suite changer la perspective de ma présentation. Donc la phrase complète qui est de cette lettre est « Mais l'expérience de cette guerre nous a montré que, sûr de l'appui moral des autorités de notre pays, notre grande force consiste dans notre indépendance absolue de tout pouvoir politique et que le comité, quoique portant le nom d'international, doit être purement suisse. » Donc on voit cette lettre où d'un côté le CICR dit être indépendant de tout pouvoir politique, mais dans le même temps se dit très très proche de la Confédération suisse. Donc à moins qu'on considère que la Suisse est tellement petite que son pouvoir politique n'en est pas un, il y a quand même une contradiction qui, à mon avis, symbolise un peu toute la relation entre les deux entités pendant la Première Guerre mondiale. Et pour la présenter un peu plus en détail, je vais faire une présentation en plusieurs parties. Donc tout d'abord montrer en quoi le CICR et la Confédération ont collaboré entre 1914 et 1918. Dans un deuxième temps, je vais mettre en avant quelques divergences entre les deux entités. Je voulais ensuite parler du cas de Gustave Ador, mais vu que Roger Durand l'a fait vraiment en détail hier, je vais vraiment être très très bref sur ce point. Et finalement, je vais m'interroger sur les raisons de cette relation étroite entre la Suisse et la Confédération. Avant de commencer, c'est aussi important de préciser que lorsque la guerre commence, les deux entités sont déjà passablement liées et le président du CICR, Gustave Ador, ainsi qu'un des membres du comité, Horace Micheli, sont membres du Conseil national, donc le Parlement de la Confédération. Donc il est déjà implanté à Berne avant même le début des hostilités. Lorsque la guerre commence, très vite, la Confédération, en particulier le département politique fédéral, donc les affaires étrangères, vont soutenir d'une manière assez active le CICR, tout d'abord par des échanges d'informations. Dès qu'on a des informations qui semblent être intéressantes, soit pour l'un, soit pour l'autre, on les échange assez facilement. La Confédération transmet aussi tous les rapports des puissances protectrices qui ont été mentionnés hier par François Bunion. Le CICR peut en avoir une copie et donc être aussi informé de ce qui se passe dans certains camps que lui-même ne peut pas visiter. Il y a des aides tout à fait concrètes et relativement faciles à accorder, comme la valise diplomatique. Un certain nombre de documents du CICR transitent par la valise diplomatique suisse entre le terrain et Genève, ce qui est donc assez très, très utile pour le CICR. La franchise de port qui est accordée à l'Agence internationale des prisonniers de guerre, qui est aussi extrêmement intéressante parce que, étant donné les millions de lettres qui ont été envoyées depuis l'agence, ça fait quand même des économies substantielles d'argent. Il y a évidemment un soutien financier. Et une autre forme de soutien qu'on pourrait mentionner, c'est la mise à disposition de soldats germanophones pour l'Agence internationale des prisonniers de guerre. Il y avait un gros problème à la IPG, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de volontaires qui comprenaient, qui lisaient bien l'allemand. Et donc, c'était relativement facile pour l'armée de mettre à disposition des soldats germanophones qui pouvaient contribuer au service allemand de l'agence. Donc on voit que c'est une aide qui est à la fois symbolique et matérielle, qui est extrêmement utile pour le CICR, mais qui ne demande pas beaucoup d'efforts de la part de la Confédération. Celle-ci, et en particulier le conseiller fédéral Hoffmann, contribue aussi à la nomination de délégués. Il y a un certain nombre de délégués qui vont visiter les camps qui viennent de Genève, évidemment Ferrière, Ador et d'autres, mais dans certains contextes plus éloignés, comme il y a Audier en Russie, qui est membre du CICR, du comité, mais qui est aussi ministre de Suisse en Russie. Et on trouve un certain nombre d'autres délégués, comme Parlicini en Asie, ou d'autres délégués en Grèce, par exemple, ou en Birmanie, qui sont proposés par la Confédération. Et là, c'est double. C'est des fois le CICR qui demande s'il n'y aurait pas des citoyens suisses qui vivent à l'étranger qui pourraient faire ces visites, Mais il y a d'autres cas où c'est Arthur Hoffman qui, de sa propre initiative, contacte Gustave Adore et dit qu'il aurait quelqu'un en tête. Et c'est très content si cette personne pouvait faire les visites pour, en tant que délégué du CICR. Ces délégués, en fait, pour les visites des camps, enfin, ce ne sont que des citoyens suisses. Un certain nombre sont élus à Berne, comme Arthur Huxter, qui a été mentionné hier aussi, qui est conseiller national à Penzellois, sauf erreur. La plupart sont officiers dans l'armée suisse, un certain nombre sont médecins. Et parmi ces Suisses vivant à l'étranger, on trouve à la fois des industriels, des hommes d'affaires, mais aussi des diplomates suisses. Et ce qui pose donc une question, c'est à quel titre les délégués visitent-ils les camps ? Est-ce qu'ils visitent avec la Croix-Rouge ou si c'est plutôt avec leur passeport à Croix-Blanche ? À quel titre est-ce qu'on les voit visiter les camps de prisonniers ? Se pose donc la question de l'allégeance de ces délégués. Donc je parle vraiment des délégués non genevois. Pour les délégués qui viennent de Genève, c'est clair que ce sont des représentants du CICR. Il y a aussi une collaboration sur laquelle je vais revenir très rapidement. La plupart des initiatives humanitaires de la Confédération suisse ont été faites en dialogue et en accord avec le CICR. Je pense par exemple au rapatriement de prisonniers gravement blessés dès 1915, puis aux accords de rapatriement franco-allemand de 1918, où là des membres du CICR sont extrêmement impliqués. Il y a aussi les discussions en vue de l'internement se font en collaboration entre la Suisse et l'institution. Et il y a d'autres accords de rapatriement qui ne concernent pas la France et l'Allemagne, de pays où les deux organisations collaborent. Peut-être que Patrick Mondard va en parler après, je ne sais pas vraiment. Donc on voit qu'il y a vraiment une collaboration pour atteindre certains objectifs humanitaires où les deux entités joignent leurs forces pour atteindre ces objectifs, parfois en concurrence avec d'autres acteurs, comme le Vatican par exemple. On peut donc parler d'une stimulation réciproque où on s'encourage à lancer de nouvelles activités et on les soutient. Il y a plusieurs lettres de Arthur Hoffman qui écrit au CICR et qui dit « Mais voilà, il y a ce problème humanitaire, souvent d'ailleurs du côté des puissances centrales, est-ce que vous pourriez faire quelque chose ?» Donc on voit qu'on essaye de se stimuler mutuellement. Une des questions qu'on peut se poser donc, c'est qui contrôle qui ? Est-ce que le comité est à la même hauteur que la Confédération ? Ce qu'on constate dans les sources, c'est qu'il y a quand même une certaine domination de Berne. Je vais donner juste un exemple. Hier, ça a été mentionné le voyage de Gustave Adore pour voir le gouvernement français en exil. Dans sa correspondance, Gustave Adore dit qu'il est allé plus ou moins de son propre chef. Quand on lit la correspondance qui se trouve aux archives fédérales à Berne, il semblerait plutôt que ce soit Arthur Hoffman qui lui ait demandé d'aller là-bas. Et il en a profité, évidemment, pour parler de questions qui concernent le CICR. On voit aussi que la Confédération est très soucieuse de tout ce qui pourrait violer la neutralité suisse. Et donc, par moment, elle a certaines craintes par rapport à des activités du CICR qui, selon le gouvernement, pourraient peut-être mettre en péril cette neutralité. En retour, on voit aussi que le comité fait vraiment attention à ne pas mettre le pays qui a vu naître la Croix-Rouge dans une situation délicate. Donc on constate quand même que, pour certaines questions, le CICR essaye vraiment de ne pas poser de problème à la Suisse, ce qui est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Malgré toute cette bonne collaboration, il y a parfois eu des divergences parfois extrêmement mineures, comme lorsque certains consuls, par exemple le consul de Suisse en Belgique, se plaint parce qu'il y a trop de correspondances pour le CICR qui transite par la valise diplomatique, donc c'est une surcharge de travail qui l'embête un petit peu, et il a aussi peur que les Allemands violent cette valise diplomatique et trouvent des choses un peu compromettantes pour la neutralité suisse à l'intérieur. J'ai parlé de l'allégeance des délégués avant. Il y a eu un problème en 1916 où lorsque 4 délégués sont rentrés de leur mission à l'étranger, ils ont été convoqués par l'ambassade d'Allemagne à Berne et ils sont donc allés faire un compte-rendu de leur mission avant même d'aller voir le comité à Genève. Ce qui a causé un certain nombre de soucis qui ne concernent pas la Confédération mais qui concernent des délégués suisses. Et là, Gustave Adore s'était passablement fâché, il leur a bien fait comprendre que c'était d'abord un comité qui devait rendre des comptes avant d'aller parler avec l'un des belligérants. Mais c'est vraiment un problème qui est ponctuel et qui n'est pas vraiment caractéristique de l'ensemble des relations de cette époque. Plus globalement, il y a une divergence sur la manière de communiquer entre Gustave Adore et Arthur Hoffman. Donc Arthur Hoffman qui a soutenu pas mal d'initiatives, mais qui était vraiment un low profile par rapport à la manière de les mettre en avant, alors que Gustave Adore, lui, voulait vraiment que toutes les bonnes œuvres de la Suisse soient clamées haut et fort en Suisse et à l'étranger. la fermentation suivante, on va en parler aussi, mais je voudrais juste mentionner le fait que par rapport à l'internement, le Vatican avait aussi fait une proposition, et pour Augustin Rador, c'était clair que tous les mérites devaient rejaillir sur la Suisse et pas sur le Saint-Siège. Comme je l'ai dit avant, la Confédération a peur que le CICR mette sa neutralité en difficulté. On peut aussi mentionner la passivité de Berne par rapport à certaines problématiques humanitaires. Et je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est la Belgique. Lorsque la Belgique est envahie par les Allemands, il y a beaucoup de Suisses romands qui protestent et qui disent que la Suisse devrait officiellement se plaindre parce que c'est une violation du droit des neutres. Et la Suisse étant neutre, elle pourrait potentiellement être une victime de ce type de violation. Et là, le Conseil fédéral est très, très, très réservé par rapport à une protestation officielle, ce qui ne fera pas. Donc, malgré les pressions de la société civile, dans ce domaine, le Conseil fédéral est très réservé. Et on voit la même chose pour les Arméniens. Donc, au fil de la guerre, il y a de plus en plus d'organisations et de citoyens suisses qui écrivent au Conseil fédéral pour dire qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut protester publiquement. À l'époque, c'est Gustav Adorf qui est au Conseil fédéral et qui, en quelque sorte, refile la patate chaude au CICR en disant « Regardez avec eux, ils sont plus aptes de faire quelque chose que nous. » Juste une petite anecdote au sein de ma présentation. Hier, pendant la pause, on a discuté avec plusieurs personnes de ce qu'aurait fait le CICR pour les Arméniens à l'époque et quel terme. J'ai vérifié ce matin, alors il ne parle pas de massacre en fait, mais dans une lettre de septembre 1915 adressée à la Croix-Rouge ottomane, le CICR parle de la destruction systématique et intentionnelle de la nation arménienne. Donc, s'il y a des domaines où il est vraiment intervenu très très tardivement, comme un appel sur les pièces de combat seulement en 1918 et dans des circonstances un peu troubles, par rapport au génocide arménien, dès 1915, il est actif et il essaye de faire une démarche. Ce ne sera évidemment pas couronné de succès, mais quand il est courageux, il faut aussi le mentionner. Donc là, il a vraiment été actif assez rapidement pendant le conflit. Sinon, il y a eu un cas où Berne a essayé de dissuader le CICR de publier une circulaire, celle qui concerne les représailles à l'encontre des prisonniers de guerre. Et là, la Confédération avait peur que cette circulaire au nom du CICR mette en péril la neutralité suisse. Mais après diverses tractations, le CICR va quand même publier son appel contre les représailles. Comme je l'ai dit dans mon introduction, je ne vais pas beaucoup parler de Gustav Adorf vu que Roger m'a beaucoup parlé hier. J'aimerais juste mentionner deux ou trois choses qui me semblent intéressantes. La première, c'est que lorsque Gustav Adorf est élu au Conseil fédéral et va à Berne, il emmène avec lui sa garde rapprochée, c'est-à-dire son gendre, Frédéric Barbet, qu'il suit plus ou moins partout, mais aussi Marguerite Kramer, dont il a été question hier, qui, lors de certaines conférences internationales fin 1917 et qui vont conduire sur les accords franco-allemands pour le rapatriement des prisonniers, elle est présente aussi à Berne dans les discussions. Donc on voit qu'il a quand même su s'entourer des bonnes personnes. Et que, en ce sens, sa venue à Berne, ça a permis au CICR d'avoir une plus grande influence. Il a aussi nommé des gens proches de Genève ou des Genevois des postes importants au département politique, comme Alphonse Dunant, qui reçoit une promotion à l'époque. Ce qu'on constate aussi, c'est une certaine confusion des rôles. À quel titre parle Gustav Adorf ? Est-ce qu'il parle en tant que président du CICR avec des objectifs purement humanitaires ou est-ce qu'il parle en tant que conseiller fédéral en charge des affaires étrangères de la Suisse ? Et là, des fois, dans la correspondance, on ne sait pas très bien à quel titre il s'exprime. Confusion d'autant plus renforcée que dans certaines lettres, c'est clairement un sujet qui concerne la Confédération, mais c'est l'entête du CICR qui est utilisé. Donc, on peut penser qu'il prenait la première lettre, la première feuille qu'il avait sous la main, et que ça ne correspondait pas tout à fait au contenu de cette lettre. Ce qui fait donc que les objectifs diplomatiques de la Suisse et du CICR sont désormais totalement liés. Ce sont les objectifs et la vision de Gustav Adorf, ce qui est quelque chose d'assez unique dans l'histoire de l'institution et sûrement de la politique suisse. Je dois aussi mentionner que son arrivée donne une meilleure image de la Suisse à l'étranger et qu'il a sûrement contribué à ce que la SDN s'installe à Genève à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, pour conclure, on pourrait se demander mais pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle relation, une relation aussi étroite entre les deux entités ? La première réponse qui est assez simple, c'est une question de personne. On a la même personne aux deux endroits, forcément, il y a des liens plus que naturels qui sont tissés. Des liens qui existaient, comme je l'ai mentionné, avant même le début de la guerre, avec la présence de certains membres du comité en politique suisse. Un autre facteur extrêmement important, c'est la convergence d'intérêts. Pour le CICR, c'était très important d'avoir le soutien de la Confédération. Et donc, il avait beaucoup plus besoin de la Confédération, sûrement, que la Confédération avait besoin du CICR au début. Après, ça a peut-être un peu changé. D'un point de vue purement helvétique, il y avait une volonté de Berne de venir en aide aux victimes de la guerre, déjà par compassion, mais aussi pour des raisons plus diplomatiques. Et en ce sens, le CICR était sans doute le meilleur symbole charitable que la Suisse pouvait présenter à l'époque, avec bien sûr d'autres organisations, la Croix-Rouge suisse et des centaines de comités qui avaient été créés sur le territoire suisse à l'époque. Il y a donc une utilité politique assez évidente à ce que le CICR soit vraiment soutenu par la Confédération. En plus, les emblèmes, le drapeau de la Suisse et l'emblème de la Croix-Rouge étant le même avec les couleurs inversées, c'est d'autant plus facile d'assimiler les deux. Et on retrouve beaucoup de cartes postales ou d'affiches qui mettent le drapeau de la Croix-Rouge et la Croix-Suisse, qui est vraiment très pratique d'un point de vue visuel pour assimiler les deux. Ça permet surtout de vanter les mérites de la Suisse à l'étranger. À l'époque, les neutres ne sont pas forcément très très bien vus. Enfin, les belligérants ont une attitude un peu ambiguë qu'on a besoin d'eux. On les appelle, on fait appel au tribunal des neutres, mais le reste du temps, on les accuse. Si on ne prend pas parti pour le combat de la civilisation contre la barbarie, sous-entendu, on soutient l'ennemi. Et donc, l'humanitaire, ça permet en quelque sorte d'être une circonstance atténuante de la neutralité. Et ça, c'est vraiment frappant à la fin de la guerre, dans les correspondances internes, aussi dans certains articles de journaux français, par exemple, où on voit qu'on critique la neutralité suisse, qu'on ne comprend pas comment est-ce que vous avez pu rester neutre pendant ce combat. Mais on reconnaît que vous avez fait une œuvre charitable qui a quand même été bien utile pour les prisonniers français et pour les populations civiles aussi. Donc, cette circonstance atteignante à la neutralité a vraiment un intérêt pratique. Et je vais prendre juste un exemple. C'est la mission suisse en 1917. Lorsque les États-Unis entrent en guerre, tous les neutres envoient des missions là-bas pour espérer obtenir des accords de ravitaillement en matière première. Et la Suisse envoie 4 représentants, y compris William Rappard, qui travaillait pour l'agence à l'époque. Il y a différents arguments qui sont utilisés. La Suisse est une démocratie modèle, un modèle de multiculturalisme, mais un des arguments qui est le plus repris, c'est l'humanitaire. En d'autres termes, si la Suisse devait périr, si elle devait avoir de très très gros problèmes pour son ravitaillement en nourriture, si sa propre population n'arrivait plus à survivre, évidemment, elle ne pourrait plus aider toutes les victimes de la guerre à l'étranger. Et c'est un des arguments qui aura contribué à ce que la Suisse soit le premier pays à obtenir un accord de ravitaillement avec les États-Unis à l'époque. Et le dernier point que je voudrais mentionner, c'est l'utilité interne de l'humanitaire. Évidemment, de nos jours, ça ferait assez le bien d'avoir pu éviter 2 guerres mondiales et d'avoir pu éviter toutes les destructions, tous les maux de la guerre. À l'époque, c'était peut-être pas si facile. Et donc, il fallait trouver du sens à cette neutralité. Pourquoi est-ce que nous, on est épargnés alors que tous nos voisins sont en train de s'entre-détruire. Et peut-être que, même sûrement, l'humanitaire, ça a permis de donner du sens à cette neutralité, de dire, ok, on est neutre, ok, on est peut-être divisé entre Suisse romande et Suisse alémanique, on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes religions, mais ce qui nous unit, c'est qu'on est tous charitables. Et l'humanitaire, c'est vraiment notre mission presque divine. Et pour vraiment terminer, j'aimerais juste rappeler que le CICR n'a donc pas été totalement indépendant à l'époque. Il y avait déjà des liens extrêmement étroits en 1914, mais ces liens se confondent totalement en 1917 avec l'arrivée de Gustave Adolf au Conseil fédéral, évidemment. Et le CICR, tout en remplissant sa mission humanitaire, a vraiment fait en sorte de ne pas causer de tort à son pays d'origine. Et donc on voit que, même si officiellement on parle toujours de la Croix-Rouge qui serait vraiment au-dessus des nations ou autres, les membres du comité se sentaient très suisses à l'époque, les patriotes, et ont donc aussi tout fait... vraiment fait tout ce qu'ils ont pu pour que cette neutralité soit maintenue pendant la guerre. Et je vous remercie.